Alors, je suis ravi de recevoir d'abord, j'allais dire, une consoeur, hein, puisque vous êtes journaliste, comme vous m'avez dit avant de rentrer dans ce studio, vous avez dit on est journaliste à vie. Donc, vous êtes toujours journaliste, même si vous êtes à la retraite. Alors, vous êtes Dominique Martin Ferrari, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, mais là, vous êtes à Montpellier maintenant. Et à Montpellier, vous organisez, enfin, vous co-organisez avec d'autres personnes, j'imagine, un colloque d'importance qui va avoir lieu le 29 septembre à la salle Rabelais. Alors, dites-nous de quoi il s'agit.
Eh bien, on était, en fait, c'est l'année 2022, c'est l'année qui fête à la fois les 50 ans du premier sommet de la Terre, c'est-à-dire à Stockholm.
Et oui.
Et deuxièmement, c'était les 30 ans de Rio,
le fameux sommet de la Terre. Rio.
Voilà.
Le fameux sommet de Rio, on peut dire qu'a lancé un petit peu toute cette mobilisation au niveau de l'écologie. Hein. C'était un peu le début. Hein.
En fait, c'est le début, si vous voulez, médiatiquement, parce
oui.
que ça a été la naissance de CNN, c'est-à-dire que pour la première fois, on avait une couverture qui était médiatique de l'événement.
Et important. Et on en parlait beaucoup hein, de ce sommet de Rio, je me rappelle, dans la presse écrite notamment, il y avait beaucoup de journalistes qui avaient été envoyés à Rio. Hein.
Absolument. Mais par contre, tout avait commencé à Stockholm en 1972.
Oui.
Et alors, il faut se souvenir que Stockholm a été moins important et moins relié. Mais c'est à ce moment-là que le Club de Rome, avec sur le rapport de Denis Meadows, donc du MIT aux États-Unis, avait organisé une recherche sur ce qu'on appelait les limites de la croissance.
Et oui.
Pour le premier, pour la première fois, il paraissait un ouvrage nous annonçant que finalement, dans le monde...
Il y a un moment, ça s'arrête.
Il y a un moment...
On bascule.
On a épuisé les ressources.
Et oui, alors là, c'était quelque chose de tout à fait nouveau dans les années 70. Vous imaginez, dans les 70, on est en pleine croissance, les gens veulent consommer, c'est ça. Il y a les premiers prémices...
C'est les 30 glorieux.
Voilà, il y a le chômage, on en parle peu, etc. Et puis là, tout va arriver, et puis on va commencer à prendre conscience que la Terre, elle n'est pas inépuisable.
Non seulement elle n'est pas inépuisable, mais en plus de ça, elle est victime de nombreuses pollutions. Et on découvre les premières pollutions, les premières marées noires, les premiers...
Déforestations, au Brésil notamment, puisqu'on parle de Rio. L'Amazonie, on commence à se tourner un peu vers l'Amazonie en se disant, mais qu'est-ce qu'il y a ? On en fait des choses, mais est-ce que ça va finir par avoir des conséquences ? Alors, à cette époque-là, on n'en parlait pas encore du réchauffement climatique.
Quand même, à Rio, on signe trois conventions. Et on signe une convention sur le réchauffement climatique.
Oui, en 92. Au tout début, en 70, 72, c'était
On commence un petit peu... ça avait été même préalable. Il y avait des chercheurs qui avaient commencé à dire que, attention, du CO2 s'accumule et peut faire un effet de serre et donc peut réchauffer la planète. Mais on n'y tenait pas grand-chose.
Oui, enfin, c'est un petit peu comme les premiers écologistes qu'on a vu apparaître à la télévision, vous qui avez fait de la télévision.
Alors, 74, Dumont.
Ben oui,
Dumont, ils sont vers d'eau.
Vous imaginez, et il paraît qu'il faisait une petite sieste aussi avant de passer à l'antenne. Hein. Donc c'était les téléspectateurs voyaient ce personnage et ils étaient un peu surpris parce qu'on n'était pas dans cet état d'esprit. Hein. Mais c'est un monsieur qui a vraiment lancé, je crois, l'écologie et l'écologie
politique.
On
est passé de l'écologie scientifique à l'écologie politique.
Tout à fait.
Et c'est vraiment Rio qui va marquer puisque 193 chefs d'État sont présents et viennent signer et s'engager sur les conventions. Et c'est très très important parce qu'on vient de vivre un an avant le mur de Berlin vient de s'écrouler, on est en plein...
En 89, on n'y est pas longtemps, et c'est la fin de l'Union soviétique en 91, on peut dire.
Donc on est en plein multilatéralisme et on espère que environnement, paix, fin de la pauvreté, tout cela, la fin des blocs...
La fin de l'Est-Ouest.
Voilà, tout cela va être propice finalement à travailler sur une planète qui se donne à Rio les moyens d'être... pour tous, vivable.
Alors c'était formidable, mais on a su que ça a été difficile et que ça continue à être très difficile parce qu'il faut mettre en accord tous ces accords, justement.
Alors justement, 10 ans après, à Johannesburg, en 2002...
Jacques Chirac.
Jacques Chirac, la maison brûle.
La maison brûle et on ne fait rien.
Mais c'était le lieu... On s'apercevait en 2002 que finalement, c'était bien que les États soient engagés, mais qu'on ne pourrait rien faire sans les entreprises ni les élus territoriaux. Donc, Johannesburg s'est donné un petit peu les moyens de mettre en forme et de mettre en action ce qui avait été décidé à Rio. Et là, effectivement, les États-Unis commençaient à renâcler et commençaient à ne pas vouloir s'engager. Et Chirac a eu un énorme succès.
Oui.
Il était conseillé par Nicolas Hulot à ce moment-là.
Oui, déjà, Monsieur Hulot. Quand
voilà. Et il a donc dit, attention, si nous ne faisons rien, eh bien...
La maison va brûler
et on ne pourra pas dire que nous ne savions pas.
C'est surtout ça qui est très important. Eh bien, écoutez, alors, juste pour les auditeurs, parce que là, c'est passionnant ce qu'on raconte, et on va continuer à en parler, mais donc ce colloque, c'est le jeudi 29 septembre à la salle Rabelais. C'est pas là de Charles de Gaulle à Montpellier, mais il faudra s'inscrire. Mais on fera un petit article dans notre site qu'on enverra vers nos auditeurs pour qu'ils sachent comment s'inscrire à ce colloque, on peut dire ?
Oui, c'est un colloque. Alors, il ne faut pas croire d'ailleurs qu'on ne va faire que de l'histoire du développement durable, puisque dans l'après-midi, on va voir en quoi Montpellier, très très tôt, a pris au niveau de son université les conseils qui avaient été donnés à Rio, a réorganisé sa recherche et est devenue une des universités les plus importantes du monde.
Eh bien, écoutez, si vous voulez bien une petite pause pour nos auditeurs, puis on va reprendre cette conversation avec Dominique Martin-Ferrari et on parlera aussi, bien sûr, de l'association que vous représentez, Métamorphose, et aussi Montpellier 2050. Alors, on est de retour, là, avec... c'est passionnant, là, ce qu'on raconte.
Il faut qu'on quitte l'histoire. Il faut revenir à aujourd'hui, parce que ça s'est aggravé, tout ça.
Voilà. Alors, Dominique Martin-Ferrari nous présente, donc, ce colloque qui aura lieu à la salle Rabelais, le jeudi 29 septembre. C'est à quelle heure, au fait? Je n'ai pas demandé.
Ça commence à 9h et ça finit à 18h.
À 18h, avec peut-être la présence de notre maire?
Oui, absolument.
Bon, très bien. Alors, continuons cette histoire passionnante, mais effrayante aussi.
Effrayante parce qu'effectivement, à partir d'un certain moment, malgré les efforts, parce que justement, ce colloque a aussi pour mission de répondre à toute cette nouvelle génération qui dit « rien n'a été fait ». C'est pas vrai.
Ça a commencé.
Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le seul problème, c'est que malheureusement, les mobilisations n'étaient pas à la hauteur de la dégradation qui, elle, s'accentuait à une vitesse grand V.
Et puis, voilà. On va jusqu'au sommet de Paris. Hein, il semblerait qu'on s'engage. C'était Laurent Fabius qui était aux baguettes, hein, si je me rappelle bien.
Oui, c'est les accords de Paris.
Oui, les accords de Paris.
Donc, au moment de la COP, c'est-à-dire que tous les ans, on se réunit pour essayer de voir un peu quels ont été les progrès. Et là, il réussit effectivement à rendre juridiquement contraignants les accords qui sont pris, ce qui est quelque chose de très nouveau.
C'est totalement nouveau, et puis même des pays comme les États-Unis, qui l'eût cru, pouvant s'engager. Et puis avec maintenant le nouveau président Biden, il a aussi fait quelques annonces.
Trump s'était retiré, Biden revient en disant qu'il reprend la lutte contre le réchauffement climatique.
Mais enfin, c'est de l'espoir,
de l'espoir, parce qu'il faut penser quand même que les États-Unis sont les premiers producteurs de gaz de schiste, des premiers pollueurs du monde, avec la Chine.
Et puis, n'oublions pas le Brésil de M. Bolsonaro,
poursuit sa déforestation.
Voilà, alors peut-être, là aussi, il y a des élections au Brésil dans très peu de temps, et peut-être qu'il y aura un changement aussi, parce que l'écologie, elle est aussi politique.
Alors, l'écologie est politique, mais pas seulement, justement. Pas seulement, et si vous voulez, les associations, justement, jouent un rôle extrêmement important, parce que ce sont les associations qui obligent, en fait, le fait politique. Oui. C'est-à-dire que les politiques, aujourd'hui, ça se regarde vraiment la science. Mais il faut penser qu'un politique, il gouverne sur du court terme. Et donc, il a besoin de la croissance.
C'est difficile de dire, écoutez, on va se serrer la ceinture pendant 50 ans. C'est très, très difficile. On comprend bien parce qu'il a cette vision de son mandat. Il a son mandat. Il vient d'être élu.
Sauf que les choses s'accélèrent et que même par rapport au GIEC, par exemple, aux annonces qui étaient faites par les scientifiques, on s'aperçoit aujourd'hui que tout va plus vite.
Et on s'en rend compte même quotidiennement.
Et on s'en est rendu compte cette année avec les canicules et
les tempêtes, les ouragans,
la montée de la mer, etc. Et tout va beaucoup plus vite que prévu. Ouais. Donc, il y a réellement aujourd'hui une prise de conscience et on espère qu'il va y avoir un... Alors, c'est vrai qu'il y a énormément d'argent qui sont mis au niveau de l'adaptation, etc. Mais l'objectif de ce colloque, c'était de montrer que, parce qu'il y aura le monde nouveau deux jours plus tard, c'est de montrer que le local ne suffit pas.
Non.
Et qu'il faut retrouver il faut reconstituer cette solidarité mondiale.
Mondiale, internationale.
Et c'est l'objet du colloque. L'objet du colloque est de montrer que nous sommes sur une planète et que nous sommes solidaires. Or, on n'a pas tellement pris en compte les demandes des pays
En voie de développement, comme on disait, les pays du Sud, soyons clairs,
voilà.
Les pays du Sud. L'Afrique, notamment.
Notamment. Alors, ils vivent le réchauffement. Mmh. Il y a même des zones qui vont être des zones inhabitables.
Désertiques.
On passera au-dessus de 50 degrés. Mm-hmm. Et on ne fait rien, quoi. Ils attendent notre aide.
Alors, le titre du colloque, c'est « Le monde au chevet d'une planète en métamorphose ». Métamorphose du nom de votre association.
Métamorphose Outre-mer, je l'avais créé parce que j'avais conduit sur France O un magazine qui s'appelait « Éclat de planète ». Et donc, j'avais vu...
Vous travaillez en Outre-mer.
Voilà, j'avais beaucoup... J'avais vraiment fait connaissance avec l'Outre-mer qu'on méconnaît parfaitement et je voyais que, par exemple, on y appliquait parfois des normes françaises qui n'avaient aucun sens là-bas.
Oui.
Je prendrais l'exemple des bâtiments. En Guyane, par exemple, on construisait en béton alors que ils avaient et donc on les obligeait à la clim alors qu'ils étaient habitués à des maisons de bois
qui n'avaient pas besoin
parce que grâce aux alizés elles étaient
Et ben écoutez, on pourrait parler pendant des heures avec vous, mais surtout pour les Montpelliérains qui nous écoutent, ils sont nombreux à écouter Divergence FM, et ben on les convie à aller assister. Alors il y aura beaucoup, on mettra sur le site, il y aura énormément de participants, hein. Vous n'êtes pas toute seule, hein, Dominique, à organiser tout ça et à parler pendant ce colloque du 29 septembre à la salle Rabelais à Montpellier. Et puis, en tout cas, merci d'être venu dans nos studios.
Merci.
Alors, c'est des petits studios, mais ça vous rappelle quand même que vous avez fréquenté de nombreux studios.
Là, vous savez, RFI n'était pas trop à la mode en France, mais très écouté quand j'arrive en Afrique.
Ah oui, RFI, bien entendu. Merci en tout cas d'être venu.